Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord les titres. Plus de 500 civils tués en l'espace de deux mois dans les territoires des Lubéros. La notabilité locale hausse les tons. Elle recommande au gouvernement de prendre ses responsabilités et renforcer les effectifs militaires dans cette zone. Naufrage dimanche 28 juillet dernier au beach Kambole dans la ville de Kindu. Les bilans s'alourdissent. Selon le gouverneur du Maniema, il est passé de 25 à 36 personnes mortes. L'invité de ce journal est le porte-parole du gouverneur de l'Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo présente la réplique du gouvernement provincial de l'état de siège au propos du député national Gratien Irachan sur Radio Kapi à propos de la situation sécuritaire dans l'Ituri. Bonjour. D'abord cette information, au nord Kivu, les rebelles du M23 occupent la cité de Nyamilima depuis ce samedi vers 16h50, heure locale. Cette cité est située à 45 km au nord-ouest du chef-lieu du territoire de Rutshuru. C'est sur la route Ishasha dans le groupement Binza. Des sources à Nyamilima affirment que les rebelles sont entrés sans affrontement et sans aucune résistance. Toujours selon ces sources, les combattants Maïmaï qui étaient dans cette agglomération se sont retirés à l'avancée des rebelles. Une panique gagne déjà les habitants d'Ishasha à la limite avec l'Ouganda, à quelques 20 km de Nyamilima, indiquent les mêmes sources. Les rebelles ont ratissé la zone avec quelques tirs. Rappelons que plusieurs autres localités du groupement Binza sont passées sous occupation du M23 depuis vendredi, à l'issue des combats avec les Wazalendo qui ont décroché. Toujours au nord Kivu, dans le nord du territoire des Lubéros, plus de 500 civils ont été tués en l'espace de deux mois dans différentes attaques des groupes armés. C'est le bilan révélé lors d'une rencontre tenue ce samedi à Butembo et à laquelle ont pris part le chef coutumier, les acteurs de la société civile et les notables de l'axe Butembo Mangure Dipa. Dans une déclaration qu'ils ont faite à l'occasion, les participants recommandent au gouvernement de renforcer les effectifs militaires dans la zone. D'autant plus que la situation d'insécurité pousse les populations à déserter la zone. Il recommande également les départs de tous les groupes armés auteurs des exactions envers les populations. Les mwami du groupement Bakika et jeune Viringa Mayani a lu la déclaration. En voici un extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Condamnons avec la dernière énergie les massacres de plus de 500 personnes sans défense à l'intervalle de deux mois, malgré la présence de plusieurs groupes armés se disant Wazalendo. Des pertes de biens énormes de la paisible population, eu égard à ce qui précède. Recommandons le départ de tous les groupes armés actifs dans la zone de Mangure Dipa. En gouvernement, de déployer les éléments FARDC partout dans cette zone. De rendre disponibles les moyens pour la réussite de l'enterrement digne et sécurisé dont la plupart des corps de nos compatriotes gisent encore sur le sol et d'autres ayant été enterrés par des volontaires sans dignité humaine. D'indemniser toutes les victimes, notamment la société des services Yumbira, SSV en sigle, les zones de santé de Bien et Mangure Dipa, les opérateurs économiques et tous les autres. De garantir la sécurité de tous les leaders locaux à proie aux menaces de ces groupes armés.
Dans la province de la Tchopo, les ministres de la communication et médias et porte-parole du gouvernement appellent les jeunes à pouvoir s'engager pour la défense de la mère patrie. Patrick Muyaya leur a lancé cet appel ce samedi au cours d'une conférence axée sur les thèmes « Tout pour la patrie ». Cette conférence animée à l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani, conjointement avec trois autres membres du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique que ce dernier a débuté vendredi soir à partir de la ville de Kisangani. Quel est l'objectif de cette campagne? Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Au cours de cette conférence, les membres du gouvernement ont plus insisté sur le fait que les jeunes à venir de demain ne doivent pas se laisser manipuler par les réseaux sociaux. Pour Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, il fallait leur communiquer la nécessité de se lever et de comprendre les enjeux du pays afin que chacun joue pleinement son rôle.
Nous avons sensibilisé les étudiants parce que ce qui nous concerne ici, c'est d'abord le pays. Ce n'est pas une question qui est liée au président de la République individuellement ou à son gouvernement. C'est une question qui est liée à nous tous. Aujourd'hui, il est important que nous puissions soutenir notre armée dans ses efforts de relance, parce que l'armée doit être en mesure de nous sécuriser, mais aussi de défendre l'unité nationale.
Si le ministre de la Communication se dit satisfait des échanges qu'ils ont eus avec les étudiants, ces derniers déclarent avoir reçu ce message et promettent de se comporter en conséquence. Tel est le cas de l'étudiante Déborah Lembousou.
Je sais maintenant que je ne peux plus divulguer les informations des fake news sans vérification. Donc je peux juste sensibiliser les autres à ne plus utiliser les réseaux sans être informés d'une bonne manière.
Signalons que le porte-parole militaire, le général Sylvain Ekengue, a pour sa part rassuré l'assistance de la détermination des FRDC à pouvoir reconquérir les zones occupées, quoi qu'il en coûte. Cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Maniema, les bilans du naufrage du dimanche 28 juillet dernier au Beach Kambolé dans la ville de Kindu est revu à la hausse. Dans une déclaration vendredi devant la presse, le gouverneur a précisé qu'il passe de 25 à 36 morts. Pour la société civile du Maniema, c'est énième accident qui survient 2 mois après celui enregistré au niveau de la chute des Kamimbi, ayant causé la mort et la disparition de plus de 100 personnes, constitue la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Son président l'a dit dans une déclaration faite ce samedi à Radio Okapi. Maître Stéphane Kamundala condamne ce qu'il qualifie d'indifférence du gouvernement central et de la présidence de la République face à ces drames ayant coûté la vie de plusieurs Congolais. Maître Stéphane Kamundala a été joint par Florence Kizalunga.
Il est inadmissible et intolérable que la vie des paisibles citoyens, du reste sacré, soit prise avec beaucoup de légèreté par les services spécialisés qui, pour avoir reçu la corruption, autorisent les tenanciers des bateaux, baleinières, pirogues motorisées ou seules à pagayer d'embarquer des passagers en violation flagrante des lois et règlements techniques de sécurité de navigation intérieure. Tout ceci est la conséquence, certes, de la démission de l'État de façon générale et de l'inattention, l'indifférence des autorités du niveau central du pays à l'égard de la province du Maniema en particulier. La preuve en est qu'aucun message de condoléances, de compassion, moins encore de consolation, tant de la part de la présidence de la République que du gouvernement central, n'a été adressé à ces multiples familles éprouvées et éplorées jusque-là. Pourtant, pour seulement 9 Congolais morts dans les concerts de Kalambay, le VPM de l'intérieur n'a pas tardé de réagir farouchement et d'en condamner les auteurs. Il s'agit là de la politique de 2 poids, 2 mesures.
Au Kasaï oriental, lancement depuis mercredi dernier par les gouverneurs des provinces des travaux d'entretien de plus de 200 km des routes des dessertes agricoles. La cérémonie a eu lieu dans le secteur des Sangou, en territoire des Katanda, par Jean-Paul Mbouébois. Ces travaux qui vont durer 3 mois consistent au débroussaillage d'axes routiers, nettoyage des fossés existants, déchargement de points chauds, formation des bandes transversales, élagage et abattage d'arbres. Explications avec Esther Dalafina.
Ces travaux sont financés par le FONER, Fonds d'entretien routier, à hauteur de plus de 400 millions de francs congolais. Ils concernent 5 territoires de la province du Kasaï oriental. Dans le territoire de Tshilenge, par exemple, 35 km de route de dessertes agricoles seront réhabilités, affirme Jean-Désiré Moukanz, directeur des ressources humaines et représentant du directeur général de l'OVDA. 6 km de route seront entretenus sur la RN1, axe Benamulumba-Kamwata, et 14 km sur l'axe Kakona Kabengela jusqu'à Changa. Sur la RN2, axe Nkwadi et Kadisanga, 15 km seront entretenus. Dans les territoires de Katanda, sur la RN1 jusqu'au barrage Tchala, 20 km seront réhabilités, tandis qu'au niveau du barrage Tchala-Kabala, 30 km pour un total de 50 km. Dans les territoires de Niabi, c'est 54 km de route à réhabiliter. Les travaux seront effectués à partir de Boya-Miketa jusqu'à Kasenga, 26 km et Bakwampata Luanga jusqu'au marché Nkumba, 15 km et Bachilanga jusqu'à Bakwakanda, 13 km. Dans les territoires de Lupatapata, 56 km seront réhabilités et 57 km de route seront réhabilités dans le territoire de Kabeyakamwanga. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Matadi au Congo central, les collectifs de jeunes leaders des Mwanda veulent plus d'éclairage sur l'utilisation des 10 millions de dollars de redevances pétrolières issues de l'avenant 09 signé par le chef de l'État. Cette structure a porté plainte au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe contre la commission de gestion de ces fonds CGFM destinés au développement du territoire des Mwanda à titre de redevances pétrolières. Les collectifs de jeunes leaders des Mwanda reprochent à la CGFM le détournement $1 million américains alloués au financement des structures de jeunes et des femmes, mais aussi plusieurs autres millions de dollars américains destinés au financement des projets à impact visible, dont les travaux d'électrification de la cité des Mwanda. Armel Loubadika, président de cette structure de jeunes des Mwanda, parle des motivations de cette plainte au micro de Nana Pluriche Mambo.
Nous avons porté plainte contre la CGFM pour détournement des 10 millions de dollars de la VNF que le chef de l'État avait octroyé pour le développement du territoire des Mwanda, tout en s'y référant sur les projets prioritaires. Mais son exécution pose problème jusque-là au niveau du territoire des Mwanda, vu les délais que celui-ci a pris. Donc, c'est inconcevable. Au mois de décembre, la structure avait pris en location des transformateurs pour simplement flouer la population mwandaise sous prétexte qu'elle a acheté. Mais lorsqu'elle a présenté son rapport à l'équipe de la présidence, nulle part les rapports a repris l'achat des transformateurs. Pourquoi cette farce? Ces structures a menti même au chef de l'État que les territoires de Mwanda allaient être électrifiés le 20 décembre 2023. Malheureusement, le chef de l'État l'a annoncé, mais jusqu'à ce jour, Mwanda n'est pas respecté. Ces structures avaient prévu de financer la construction des forages et à l'appui à la desserte d'eau potable dans les territoires de Mwanda via la régie des eaux. Malheureusement, la régie des eaux n'a pas réussi à un financement quelconque.
Contactez la commission de gestion des fonds de Mwanda CGFM à travers son chargé des communications appelle les plaignants à avoir suffisamment de preuves des détournements dont ils accusent cette structure. Au cas contraire, ce sera une imputation dommageable. Selon Nelson Tamba, la CGFM a déjà fait face à une enquête de l'IGF et à une mission d'audit de la présidence de la République concernant la gestion de ces 10 millions de dollars. Rendons-nous au Sud Kivu, où 250 jeunes de Bukavu sont en formation sur le leadership et le développement personnel à l'hôtel Panorama, une initiative de l'ASBEL Kesho Congo qui a pour cible les femmes, les enfants et les jeunes. Formation organisée dans le but de susciter l'engagement de la jeunesse à transformer la vie de la société, impacter les autres et investir dans les générations futures. Plus de détails avec vous, Rachel Kiesembangu.
Une formation qui aide les jeunes à voir au-delà de ce qui est appris à l'école ou à l'université, une formation pour la vie. Des connaissances permettant à faire face aux défis liés à la vie difficile, à l'emploi, à l'entrepreneuriat. C'est ce que pense Daniel Rugen, jeune participant.
Un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui contrôle, qui donne des ordres, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de soi-même d'abord, pour être à l'écoute des autres. Et puis le développement personnel, j'ai compris que c'est tout ce qu'il nous faut, nous, la jeunesse congolaise, pour pouvoir avancer. Nous sommes en train de rechercher le développement de notre pays, mais nous attendons ces développements-là des autres. Nous oublions que nous sommes les contenus de ce contenant-là duquel nous recherchons le développement.
Le formateur affirme qu'on a du potentiel et ce potentiel est fait pour être amélioré. Docteur Michel Mouvoudi.
Je voudrais, à travers ces formations, pousser les jeunes à prendre l'action, à comprendre déjà le fait d'être humain, on a un potentiel. Mais ce potentiel va devenir rentable, va devenir distributif lorsque nous allons y investir. Et cette question d'investissement dans son développement est d'abord une question personnelle.
Signalons que cette formation de 3 jours se clôture ce lundi 5 août. Bukavu, Rachel Kiesembangu, Radio Okapi.
Jeux olympiques de Paris 2024. Les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux olympiques de Paris ont été éliminés précocement. Dernière encore dans la course, le sprinter Dominique Lasconi Moulamba a suscité espoir ce samedi 3 août en se qualifiant pour le premier tour après avoir fini 3e au préliminaire avec 10 secondes 54 tierces. Dominique Lasconi Moulamba a donc été repêché comme meilleur temps. Il s'est classé juste derrière les Kenyans Nikki Harris et les Polonais Lalou Muhammad. Sa joie a été de courte durée parce qu'il a été aussitôt éliminé au premier tour après un temps de 10 secondes 53 secondes. Retour sur la participation des athlètes congolais aux Jeux olympiques de Paris avec vous, Jean Gandou.
La série noire a commencé samedi 27 juillet dernier à l'Arena Champ de Mars avec le judoka Arnold Kisoka. Il a été éliminé par abandon plus d'une minute seulement après le début du combat. Trois jours après, la boxeuse Marcela Sakobi a été aussi éliminée au 16e de finale. Elle avait pourtant bien commencé en remportant le premier round avant de se faire rattraper au deuxième et de perdre le troisième au point 2 contre 3 face à l'Ouzbek Sitora Turdibekova dans la catégorie des moins de 57 kilos. Exemptée de tour préliminaire, la boxeuse Brigitte Bambi a été aussi écartée jeudi 1er août en 8e de finale. La pugiliste congolaise est tombée devant la Thaïlandaise Jean-Jaem Suanafeng dans la catégorie des 66 kilos sur la note d'un point contre 4. Le même jour, le nageur Aristote Ndombe a été aussi éliminé. L'ambassadeur congolais a fini la course à la 6e place avec 29 secondes 4 dans la 2e série. L'autre nageur, Arnold Ipelenga, n'a pas aussi fait mieux. Ainsi, la RDC court toujours derrière la première médaille olympique de son histoire qui s'éloigne aussi à chacune de ses participations aux Jeux olympiques. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'occasion de la date d'anniversaire de l'accession à l'indépendance du Niger, samedi 3 août, le général des brigades Abdourahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le comité militaire à la tête du pays, a accordé une très longue interview à la télévision nationale. Une interview sous forme de bilan de son année au sommet de l'État depuis sa prise de pouvoir par la force. Durant près de 2 heures, le général Tiani est revenu sur les thématiques qu'il a prises l'habitude d'aborder. D'abord, la souveraineté qu'il considère aujourd'hui retrouvée, la lutte contre le terrorisme et le soutien indéfectible aux forces armées dont il est issu. Il est également revenu sur les sanctions de la CEDEAO de l'an dernier, mais aussi sur les accusations à l'encontre de la France de financer, voire d'entraîner, des terroristes dans la région, notamment au Bénin.
L'invité.
Situation sécuritaire en Ituri, réplique du gouvernement provincial de l'état de siège au propos du député national Gracien Irachan sur Radio Okapi. Comment réagit le gouvernement provincial de l'Ituri aux allégations de règlement des comptes dont sont victimes des jeunes accusés d'être complices au M23? Les porte-parole du gouverneur, le lieutenant Jules Ngongo, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Lieutenant Jules Ngongo, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Le député national Gracien Irachan dénonce des cas de mort et d'exactions au littoral de Lac Albert. Qu'en est-il concrètement, vous qui êtes sur place, quelle est votre version des faits de ce qui se passe dans votre province de l'Ituri?
Le mercredi, ils ont attaqué simultanément nos trois positions, Kakaseni et Atchomia. Ils ont attaqué nos positions et ces majors a été tué et 3 autres blessés. Pourquoi ils ont attaqué de manière simultanée nos positions? C'est parce qu'ils étaient mobilisés par leur leader, Thomas Lubanga, qui vit aujourd'hui en Cavane. On ne sait pas là où il est. Ils étaient mobilisés pour attaquer nos positions. Malheureusement, nos hommes se sont bien comportés comme le gouverneur avait dit. Et cette attaque s'est soldée à un échec cuisant parce que leur intention était pour récupérer les armes, avoir le contrôle des littorales, pour faire appel à leurs alliés M23. Et voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une mutinerie, parce que si cela est dit ainsi, donc ça, ce sont que des faux fuyants. Et nous demandons à l'honorable Irachan de cesser de parler au nom des groupes armés, de se désolidariser de ces groupes armés qui créent que la désolation au sein de la population.
Il dénonce notamment une pratique qui sévit de plus en plus en Ituri, où on peut facilement arrêter sans preuve des jeunes gens, les torturer, les jeter en prison et les accuser d'être complices du M23, alors que la zone d'opération du M23 est quand même suffisamment éloignée de l'Ituri. N'est-ce pas là une preuve patente de règlement de compte que dénonce Gracien Irachan?
Nous n'arrêtons pas les gens pour arrêter. Même ceux-là qui sont interpellés, une fois les enquêtes finies, ceux qui sont innocents seront libérés. Et donc, ça, ce sont le verbiage, parce qu'il excelle toujours dans les verbiages sans pourtant connaître le contexte actuel de l'Ituri. Et donc, nous ne pouvons pas arrêter nos jeunes pour rien. Celui que nous avons arrêté à Tchoumia, parce qu'il avait tué un militaire. Certains jeunes de Tchoumia, ils nous ont empêchés de le ramener en creusant un grand trou sur la route et en utilisant le déplacé pour nous empêcher à faire notre travail. Et c'est ce que nous disons, ça c'est une violation grave des droits internationaux humanitaires. En utilisant les déplacés, tôt ou tard, ils seront poursuivis, arrêtés et condamnés comme leur leader avait autrefois violé les droits internationaux humanitaires, crimes de guerre. Et aujourd'hui, il veut maintenant pousser d'autres populations à commettre ces crimes. Et donc, nous sommes professionnels, nous arrêtons que ceux-là qui sont en connivence ou ceux-là qui cherchent à déstabiliser la province.
Pourquoi l'élu de Bounia pense que la gouvernance de la province de l'Ituri par le gouvernement militaire de l'état de siège n'est pas conforme, et il a même demandé que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suive de près cette gouvernance?
Toujours dans ces confusions, l'élu de Bounia, s'il ne sait pas que la gouvernance la plus contrôlée en RDC, nous pouvons dire que c'est la gestion du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Il a été contrôlé, lui, le gouverneur et sa gestion, il a été contrôlé par le ministère des Finances, contrôle parlementaire, où les députés nationaux ils sont venus pour contrôler la gestion du gouverneur. La délégation du ministre de la Défense, le IG, c'est-à-dire l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont contrôlé la gestion du gouverneur. Ce qui fait mal à ceux-là qui pensent que l'Ituri devrait rester dans un état de non-état, c'est-à-dire où ils veulent prendre la population itourienne comme leur esclave. Et voilà, c'est ce qui fait mal. Au nom du lieutenant-général Luboya, que nous appelons la population de rester calme et de vaguer librement à leurs occupations.
Lieutenant Jules Ngongo, je vous remercie.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information sur Radio Okapi. Polydor Basunga, la mise en onde pour vous, sous la supervision et coordination de Alain Irung Mouchinge. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi à la présentation. Merci de votre sympathique attention.